Émission en jase qui se poursuit. Il est député de Louis Hébert pour le Parti libéral du Canada et surtout lieutenant du Québec au niveau du gouvernement fédéral. Il est avec nous en studio, M. Joël Lightbound. M. Lightbound, merci d'être avec nous en jase.
Ça me fait grand plaisir. Merci pour l'invitation.
Oui, toujours un plaisir de discuter avec vous. M. Lightbound, pas le choix de commencer avec ça. Quand est-ce qu'on arrête de niaiser puis qu'on confirme le financement du tramway? Parce que là, on n'en peut plus. On va couper 1500 arbres sur René Lévesque puis on ne sait pas encore qui finance.
Bon, ben je vous confirme que le fédéral est là depuis 2018 avec presque 1,5 milliard sur la table, qui est canné. Ça, c'est dans la poche, dans l'enveloppe. Maintenant, ma réponse n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé, c'est-à-dire que pour atteindre un plus haut pourcentage de financement fédéral, il y a des enveloppes, entre autres pour le transport en commun, il y a des enveloppes pour les infrastructures où Québec établit la liste de priorités à partir du moment où il priorise le tramway de Québec. Il peut y avoir des sommes supplémentaires qui s'ajoutent.
Quand vous dites Québec, c'est le gouvernement provincial.
C'est le gouvernement
provincial.
Du Québec, provincial, okay, exactement.
Et là, est-ce que ça va prendre une éternité à s'entendre les deux comme ça a pris pour le logement puis des infrastructures municipales?
C'est vrai que pour les infrastructures liées au logement, ça a pris du temps. Mais en même temps, je remarque qu'avec notre travail, l'équipe du bureau du lieutenant, avec le travail du ministre des Infrastructures, on a signé avec Québec la première entente pour Maison Canada pour bâtir plus de logements plus rapidement. Moi, je vois que sur le transport en commun, ça avance très bien. Puis, il y a une volonté, certainement à Ottawa, mais que je sens aussi à Québec, pour mille et une raisons que vous connaissez mieux que moi, de livrer le plus rapidement possible, puis d'être le plus efficace possible. C'est que je ne suis pas inquiet. Puis, dans le dernier budget fédéral, il y a 51 milliards de dollars sur 10 ans pour les infrastructures. Ce n'est pas seulement le transport en commun, là, on s'entend, mais il y a des sommes supplémentaires, entre autres, qui peuvent aller pour le transport
en commun. C'est ce qui m'inquiète, parce que j'ai fait le calcul. Ça fait 5,1 milliards par année pour l'ensemble du Canada, mais pour financer 40 % du tramway, on va avoir besoin d'à peu près 2 milliards de plus au gouvernement fédéral. Je trouve qu'on en prend méchant pourcentage de l'enveloppe. Là.
Ben là, ça dépend parce que justement, c'est sur 10 ans, ces enveloppes-là. Puis deuxièmement, il y a une partie du financement du tramway, en effet, qu'on ne connaît pas. C'est la part que prendra CDPQ Infra s'ils prennent une part. Mais moi, je peux vous assurer qu'à partir du moment où le gouvernement du Québec, puis je sais que c'est une priorité pour le gouvernement du Québec également, à partir du moment où il priorise le tramway, sur les prochaines années, parce que le tramway va se construire dans les...
Oui, en effet, c'est jusqu'en 2033.
Il y a quand même l'opportunité d'aller chercher des sommes année après année qui viendraient voir à faire augmenter la part du gouvernement fédéral dans le financement du tramway. Mais je rappelle que quand on était là en 2018, on était là pour 40 % du montage.
Oui, exactement. Donc là, ça serait... On veut, dans le fond, du côté du gouvernement du Québec et de la municipalité ici à Québec, 40 % de ce que va être le coût du tramway. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, vous dites, même pour le même projet, on va pouvoir redéposer année par année, parce que souvent, pour le même projet, on est comme bloqué à une année.
Non, on pourrait voir la part du gouvernement du Canada augmenter.
Vous êtes responsable de rendre l'appareil fédéral plus efficace. Comment ça se passe à Poste Canada depuis toutes les annonces qui ont lieu? Est-ce qu'on voit déjà une différence? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction?
Bien, il y a une différence majeure. D'abord, c'est sûr que moi, dans le fond, ce que j'ai fait là, en rappel aux auditeurs, là, c'est que j'ai levé des moratoires qui étaient en place depuis des décennies qui empêchaient Poste Canada de... En anglais, on dirait « right size », de trouver la bonne taille d'organisation pour les services qu'ils ont à accomplir. Puis le volume de lettres, tout le monde en est conscient, a diminué drastiquement. On est passé de 5,5 milliards de lettres à 2,2 milliards en l'espace de 20 ans. C'est vrai au Canada, c'est vrai partout dans le monde. Ce qui fait que Poste Canada, je veux dire, on vient de redonner un prêt à Poste Canada de 1 milliard juste pour maintenir les opérations. C'est qu'il n'y a pas le choix que Poste Canada se réforme. Ce qu'on a fait, c'est lever des moratoires, donc... permission de fermer des bureaux de poste dits ruraux, mais qui ne sont plus ruraux, souvent en banlieue, et la fin de la livraison du courrier à domicile, c'est-à-dire qu'ils puissent implanter des boîtes postales communautaires, comme on l'avait vu avec Denis Coderre, là, son marteau-piqueur
oui,
à l'époque.
Ça avait fait grand bruit à l'époque.
On s'en souvient. c'est une transformation qui est nécessaire parce que le coût par lettre dans une boîte postale communautaire versus à la porte est beaucoup plus élevé. Maintenant, pour répondre à votre question, une des choses qui a changé, c'est que pour la première fois depuis 30 ans, le syndicat et la direction se sont entendus. Donc, ça n'a pas été une loi pour les forcer au retour au travail. Il y a eu une grève, mais je veux dire, depuis un certain temps, là, depuis que l'entente a été signée entre l'exécutif du syndicat et Poste Canada, c'est la paix syndicale. Elle reste à être ratifiée, mais ça, c'est un pas dans la bonne direction parce que une des choses qui a beaucoup nui à Poste Canada, c'est l'incertitude. Les entreprises allaient ailleurs parce qu'elles ne savaient jamais si le service allait être disponible.
Trouvaient d'autres solutions
nécessairement. C'est vrai que là, j'ai bon espoir que l'entente sera ratifiée par les syndiqués.
Mais allez-vous m'accorder une chose, c'est que ça aurait dû être fait il y a 10 ans, tout ça. Est-ce qu'on est d'accord?
Peut-être même plus tôt, peut-être même avant ça. Je veux dire, je suis entièrement d'accord. Puis il y a des services postaux qui se sont réinventés. Par exemple, je parlais récemment au PDG à l'époque de la Poste italienne. Puis la Poste italienne ont fait une transformation immense de leurs services en offrant d'autres services, entre autres. Puis maintenant, c'est une société qui est rentable. C'est que ça va prendre du temps avant d'atteindre la rentabilité chez Poste Canada. Ça, c'est clair, mais ça reste l'objectif. Tout en étant conscient que le pays est vaste et que Poste Canada a des missions essentielles, entre autres dans les communautés éloignées, communautés autochtones.
Avez-vous déjà un échéancier en tête de la rentabilité de Poste Canada? Vous dites que ça va prendre du temps, ça va prendre 10 ans, 20 ans ou 50 ans?
Ça va il y a trop de facteurs qui restent à mettre en place pour vous donner un échéancier, mais on parle plus d'années que certainement de mois, là, c'est sûr.
Le fameux port à container QSL Québec, ce projet-là, le port de Québec dit qu'on attend les autorisations du gouvernement fédéral, les permis pour enclencher un projet. Oui. Selon Radio-Canada, c'était sorti dans les médias comme quoi on l'aurait. On était censé l'annoncer lors du dernier passage du premier ministre à Québec.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les a toujours pas, ces autorisations-là?
C'est à ce stade-ci, c'est purement administratif, là. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre le port de Québec, QSL, qui est le promoteur du projet, puis l'Agence de services frontaliers du Canada. Mais je peux vous dire, ça a été mentionné dans le dernier budget, noir sur blanc, qu'on vise à diversifier nos marchés, à augmenter notre productivité. Pour moi, la certification du port de Québec comme port de container est un projet qui mérite d'être, évaluer avec tout le sérieux que ça implique, parce que, je veux dire, c'est des retombées économiques significatives. Ça serait bon pour le port de Québec. Ça serait bon pour le port de Montréal aussi. C'est pas en opposition au port de Montréal. Ça permettrait à des plus gros navires de se décharger à Québec et de poursuivre vers Montréal. C'est que pour moi, c'est un projet qui mérite soutenu. Et en ce moment, on travaille avec le port de Québec et avec QSL.
Mais ça va-tu arriver ou on fait juste miroiter le port de Québec puis finalement, le projet va tomber à l'eau?
J'aimerais ça avoir une annonce à vous faire aujourd'hui.
Parce qu'on dit que c'est de la paperasse, mais y a-tu un échéancier, un nombre de mois?
Je peux pas vous donner d'échéancier, mais on est très avancé dans les discussions avec QSL, tel que ça a été rapporté.
J'ai assez hâte qu'on ait des primeurs à Boulevard 101. Je voulais me prendre sur le on me dise « Hey, on le finance, le tramway. Hey, QSL, ça commence. »
Il y a deux scoops de noter là, dans ces notes.
Mais
sans blague, pourquoi c'est long de même au niveau administratif entre le fédéral et les autres paliers? Il me semble que j'en finis plus d'attendre.
Oui, mais c'est des décisions conséquentes quand même. Il y a toutes sortes d'analyses qui doivent se faire, entre autres par rapport au plan d'affaires, d'où viendraient les containers, quelle est la rentabilité espérée du projet. Il y a des analyses qui devront se faire une fois aussi la certification atteinte, parce que c'est un projet quand même qui doit être fait avec consultation. Certainement, le port de Québec a ses devoirs à faire aussi une fois la certification obtenue. Mais c'est vrai que c'est long, mais je regarde que quand même, ça a été mentionné dans le budget. Le budget a été déposé en novembre. On est en février. C'est pas si mal quand même.
Ouais, c'est parce qu'on en parle depuis deux ans dans les médias de QSL, c'est pour ça. Vous êtes justement ministre de la transformation gouvernementale. Travaillez-vous pour réduire cette paperasse-là, ces organigrammes-là, faire en sorte que, parce qu'on est dans une crise économique, on a besoin de diversifier notre économie. QSL, c'est un projet super porteur pour ce qu'on veut faire. Travaillez-vous pour que ça aille plus vite? Oui, OK, go, on y va.
100%. Puis M. Carney amène ce leadership-là où c'est quand même... Je pense que les gens le voient aussi au rythme où vont les annonces, que ce soit la stratégie industrielle en défense, notre stratégie pour la souveraineté numérique, que ce soit le plan pour la réduction des dépenses. L'exercice qu'on a fait dans le dernier budget, les gens l'ont peut-être... Il y a beaucoup d'annonces dans un budget, des fois ça passe un peu inaperçu, mais réduire les dépenses opérationnelles de 15%, demander à tous les ministères de faire cet exercice-là en 3 ans, c'est quand même gros pour les ministères. Dans mon cas, ça a été un exercice considérable. Puis ça amène une réflexion à savoir est-ce qu'on a besoin de telle ou telle division, est-ce qu'il y a une manière de consolider, d'être plus efficace. Ça a été une révision, disons, verticale dans tous les ministères pour réduire les dépenses et être plus efficace. Dans le cadre de mon...
c'est le cadre matriciel, horizontal, quand les ministères ont à se parler ensemble.
Et ça tombe plus dans ma cour comme ministre de la Transformation du gouvernement. Puis je travaille beaucoup avec le ministre Champagne là-dessus. À voir, par exemple...
Y a-t-il autant d'énergie quand il était ministre de l'économie pour transformer le gouvernement?
Ce gars-là est une machine. Il a toujours autant d'énergie. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, mais il est très utile. Il m'aide beaucoup dans ce mandat-là. Parce que ce que j'observe, c'est que dans les différents ministères fédéraux, c'est comme plein de paroisses avec leur propre façon de faire, leur propre responsable, par exemple, des TI, leur propre département des RH, tout ça. Donc, d'avoir une consolidation, des fois, ça peut avoir du sens et c'est ce qu'on vise à faire avec la transformation du gouvernement. Entre autres, avec des outils, des fois, tu vas avoir un ministère qui développe un outil puis un autre développe le même outil technologique.
Mais les deux se parlent pas.
Mais les deux se parlent pas toujours. C'est que c'est ce qu'on veut changer.
On va avoir Gabriel Hardy en entrevue tout à l'heure, qui est député pour le Parti conservateur du Canada. Exactement, à Montmorency, Charlevoix. Puis, dans d'autres médias, il a accusé Mark Carney, votre gouvernement, de maraudage auprès des députés du Parti conservateur du Canada. Bon, il y en a trois qui ont traversé. Le dernier, Matt Ginneroux, hier. Faites-vous du maraudage auprès des députés conservateurs pour avoir votre majorité?
C'est pas du maraudage. Je veux dire, il y a beaucoup de conservateurs très raisonnables qui se reconnaissent juste tout simplement pas dans le leadership de Pierre Poilievre, qui se reconnaissent pas dans le leadership de Pierre Poilievre, qui n'est pas capable de dénoncer ses propres députés qui s'en vont, par exemple, Jamil Givani, cette semaine, sur Breitbart, qui est comme une des chaînes les plus à droite de la droite américaine, miner puis torpiller les efforts du Canada dans nos négociations dans le cadre de la guerre tarifaire, dire qu'on est responsable des tarifs qui sont
faits.
Ben, je veux dire, c'est un peu fort en café là, d'aller dire, alors que lui représente Oshawa, où le secteur de l'automobile a été vivement impacté par les tarifs, d'aller dire que le Canada est responsable de cette guerre tarifaire, c'est... Pour moi, je comprends qu'il y ait des députés conservateurs qui disent « OK, on a ça ». On a Pierre Poilievre qui n'est pas capable de dénoncer clairement ce type d'initiative-là de son député. Puis en revanche, tu as le premier ministre Carney qui est à Davos, qui fait un discours qui a été remarqué à travers la planète, qui dit les choses telles qu'elles sont et qui agit en conséquence avec une vision assez claire pour que le Canada soit plus résilient, moins dépendant des Américains, qu'on bâtisse d'autres alliances. Pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des députés conservateurs qui soient tentés de venir nous rejoindre puis de contribuer à bâtir le Canada.
Bon, vous avez le rôle de lieutenant du Québec également. Vous avez donc un rôle de coordination avec le gouvernement du Québec.
Oui.
Comment ça se passe en ce moment? On a un gouvernement qui est dans une drôle de situation à Québec, un premier ministre qui est un peu canard boiteux. Est-ce que vous réussissez à faire avancer les dossiers avec Québec ou c'est comme on pense, nous, de l'extérieur, que ça ne bouge pas beaucoup là, à Québec?
Non, ça va assez bien avec Québec. Puis il y a une volonté, c'est sûr qu'il y a une échéance électorale, indépendamment de la course à la chefferie à la CAQ. Je pense où le gouvernement du Québec, mon expérience, ça fait quand même pas si longtemps que ça que je suis lieutenant, j'ai été nommé en décembre, il y a une volonté d'agir rapidement puis de régler le dossier. À preuve, le fonds sur les infrastructures liées au logement, ça faisait 2 ans que ça traînait, ça s'est réglé, on a annoncé ça en janvier.
C'est un bel exemple des longueurs.
Un bel exemple,
oui, des longueurs. Mais Maison Canada, le Québec, première province à signer, quand je regarde, moi, les discussions que j'ai avec les ministres québécois, je vois pas nécessairement d'impact là, de la situation spécifique à la CAQ.
Je termine l'entrevue. Joël Lightbound, qui est député de Louis-Hébert et lieutenant du Québec, justement. Merci pour votre présence. Je termine l'entrevue en vous posant la question concernant le port de Québec. Quand est-ce qu'on va annoncer le financement? Parce qu'on le sait, les infrastructures sont très déficientes. Là. Il y a même une partie là, d'un quai qui s'est retrouvé à l'eau.
Oui, bien, le port a soumis récemment, dans le début d'année, son projet de modernisation, qui est très intéressant, puis il tombe à point parce qu'il y a dans le dernier budget, justement, il y a 5 milliards qui est pour nos corridors commerciaux, entre autres pour les ports, les aéroports.
Qui est différent des infrastructures que vous avez parlé.
Exact, exact.
Parfait.
Et
parce
dans
que
le cadre
c'est
de
juste
ce
pas qu'on se mange entre projets, là, tu sais.
Non, mais moi, je parle avec la présidente du port, Olga, pratiquement à chaque semaine, puis ils ont en moi un allié. Il y a déjà eu des retombées intéressantes ailleurs de ces fonds-là qui ont été débloqués, entre autres à Port-Saguenay où on finance le quai numéro 2. C'est avec moi, je vois bien la candidature de Québec. Le port de Québec, par exemple, a une situation un peu exceptionnelle. C'est un vieux port avec de vieilles infrastructures, mais je pense que les investissements que propose le port vont pouvoir débloquer aussi beaucoup d'investissements privés. Puis c'est la philosophie de notre gouvernement et de M. Carney, c'est d'utiliser des investissements publics clés pour avoir un effet de levier sur des investissements privés. On le voit avec les grands projets, on le voit avec Contrecoeur, avec Nouveau Monde Graphite à Montréal. Pas à Montréal, mais... Donc, c'est ce type de projet-là, ça cadre très bien avec notre approche.
Monsieur Lightbound, merci beaucoup de vous être présenté en studio pour nous. C'est très apprécié. Comment va la famille en terminant?
La famille s'est agrandie le 27 décembre. Une petite fille, j'ai déjà un petit gars de 20 mois maintenant.
C'est pour ça que je posais la question, justement.
Les nuits sont pas toujours évidentes.
Wow, on voit dans vos yeux, je me suis sur le travail ou les jeunes enfants.
C'est un peu des deux. C'est un peu des deux, mais c'est du pur bonheur.
Votre conjointe va bien?
Oui, et c'est une sainte, je la salue.
Ah oui, parce que...
La rectitude de l'horaire en politique, les déplacements, la vie en deux villes, mm-hmm. ça amène à ce que les gens qu'on laisse derrière, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour tous mes collègues, ouais, tous les partis, ça demande beaucoup sur les familles, c'est que...
Bien, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander à François-Philippe Champagne. En plus, je le vois souvent, puisque vous êtes mon député, oui. J'habite dans Louis-Hébert, puis je vois souvent M. Champagne dans notre circonscription. Bon, il est souvent là, fait que peut-être qu'il peut garder... Oui,
espionner Québec.
C'est un citoyen honorifique
en tout cas,
de Louis-Hébert.
Je ne dirais pas mes sources, mais je connais quelqu'un qui travaille à la quincaillerie sur le chemin Saint-Louis. Il le voit régulièrement.
Ah, ben c'est bien espionner Québec. Mais non, mais moi, je vois juste ça positivement. Ben, oui. Le port, écoute, QSL, le tramway.
L'énergie...
Je peux continuer la liste, là.
Avec l'énergie qu'a François-Philippe Champagne, on va en changer des couches au quart de tour, là.
Ben ouais,
c'est
que, ça
c'est
va être
bon.
Efficace.
Je vais lui en faire. Je vais le faire signe.
Merci, M. Lightbound. Après la pause à Boulevard 102A, on va faire un tour d'actualité. On va parler de déneigement aussi à la Ville de Québec. Oui, enfin, la Ville de Québec a dit on a des difficultés en déneigement. Bon, c'est pas venu de la bouche du maire, mais ils l'ont dit quand même. Et on va recevoir également Gabriel Hardy, député pour le Parti conservateur du Canada dans Montmorency. Charlevoix, restez avec nous dans un instant à Boulevard 102A, l'émission d'Enjase. Jusqu'à